France Culture, il est 18h, le journal. Aurélie Kiefer, bonsoir Aurélie.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Un cœur imprimé en 3D à partir de tissus humains, c'est la prouesse réalisée par une équipe israélienne. On en est au stade du prototype, mais l'innovation semble prometteuse. Étienne Monin nous en dit plus dans un instant. Le Dieselgate prend une tournure pénale. L'ancien PDG de Volkswagen, Martin Winterkorn, est inculpé pour fraude en Allemagne. Nous ferons le point avec Ludovic Piétenu. Alain Soral, condamné pour négationnisme. L'essayiste d'extrême droite est condamné à 1 an de prison ferme pour contestation de l'existence de la Shoah. Et puis les noyades accidentelles augmentent en France, notamment chez les enfants de moins de 6 ans. La ministre des Sports lance un plan pour apprendre aux plus jeunes à se familiariser avec l'eau et ses dangers. Il est gros comme une cerise, mais il pourrait représenter une avancée majeure dans le traitement des maladies cardiovasculaires. Des chercheurs de l'université de Tel Aviv ont présenté aujourd'hui un prototype de cœur humain imprimé en 3D à partir de tissus humains. Et le gros avantage, Étienne Monin, c'est que si cette innovation aboutit, il n'y aurait plus de risque de rejet de greffe.
Oui, et ce qui est nouveau dans cette technique, c'est que pour la première fois, le cœur est complet. L'imprimante a reproduit les cellules, les tissus, les vaisseaux sanguins et entre autres les ventricules. C'est une avancée par rapport aux autres techniques de fabrication qui, jusqu'à présent, n'avaient pas recréé le système vasculaire. C'est l'une des deux avancées fondamentales. L'autre vient des cellules du patient qui ont servi de matière première. Elles ont été prélevées sur des tissus de graisse et traitées pour fabriquer l'organe. Mais pour l'instant, ce cœur ne fonctionne pas. Il peut physiquement se contracter, mais les cellules n'en ont pas la capacité. Elles ne sont pas coordonnées. Il faudra encore attendre des années de recherche avant d'envisager créer un organe de la taille du cœur humain capable de produire les pulsations. Cette avancée a été faite par 3 chercheurs de l'université de Tel Aviv. Ils espèrent pouvoir travailler sur une transplantation animale d'ici 1 an.
Étienne Monin avec nous depuis Jérusalem. Depuis 2011, le conflit en Syrie a fait plus de 370 000 morts et des millions de déplacés et réfugiés. Mais il y a également de nombreuses personnes portées disparues. Le Comité international de la Croix-Rouge vient de lancer un appel public pour tenter de savoir ce que sont devenus 3 de ses employés enlevés il y a 5 ans. Ils auraient été détenus par le groupe État islamique au moins jusqu'à la fin 2018. Parmi eux, l'infirmière néo-zélandaise Louisa Akavi, qui était en mission dans le nord-ouest de la Syrie, Nathan.
Il aura donc fallu plus de 5 ans de silence pour que les 3 disparitions qui ont eu lieu le 13 octobre 2013 près d'Idlib soient enfin connues de tous. Ce jour-là, l'infirmière monte en direction du nord-ouest syrien avec du matériel médical lorsque son véhicule se fait arrêter par des hommes armés. Depuis, plus rien, enfin pas tout à fait. Des indices de vie relativement fiables de Louisa existeraient. Certains expliqueraient l'avoir vue en décembre, selon le New York Times, dans une clinique près de Sousa, à l'époque aux mains de l'État islamique. En revanche, rien sur ses compagnons syriens. Quoi qu'il en soit, le sort de l'infirmière préoccupe toujours les autorités de Nouvelle-Zélande, pays dont elle est originaire. Le premier ministre du pays vient en effet d'affirmer qu'une opération de ses forces spéciales est actuellement en cours pour tenter de la retrouver. Des autorités qui toutefois ont critiqué la médiatisation de l'affaire par la Croix-Rouge. En attendant, tous appellent ceux qui pourraient détenir des informations sur le sort de l'infirmière et de ses chauffeurs à se manifester le plus rapidement possible.
Le parquet allemand annonce l'inculpation de l'ancien président du directoire de Volkswagen. Une inculpation liée au Dieselgate, le scandale des tests d'émissions polluantes truquées. Martin Winterkorn se voit reprocher de ne pas avoir agi en 2014 quand il a été clair que des moteurs diesel avaient été manipulés pour rendre indétectables les excès de gaz polluants. La correspondance de Ludovic Piétenu à Berlin.
Il avait pris sa retraite après le scandale. Martin Winterkorn, l'ancien patron de Volkswagen, pourrait terminer en prison jusqu'à 10 ans derrière des barreaux, accusé de fraude aggravée, d'avoir exercé une concurrence déloyale et un abus de confiance. 4 autres personnes sont poursuivies, sans que la justice ne précise pour l'heure ni leur identité, ni leur fonction passée ou présente au sein de la firme automobile. Pour Volkswagen, c'est une très mauvaise nouvelle, car cela pourrait se résumer en un acte d'accusation contre l'ancienne équipe de direction. Ce serait ravageur en termes d'image. Jusque-là, le Dieselgate, très coûteux déjà pour l'entreprise, au moins 27 milliards d'euros, ne se cantonnait qu'à des menaces de plainte au civil, des poursuites engagées par des investisseurs ou des particuliers. À présent, c'est bien la tête du constructeur ou l'ancienne tête qui est visée. Et Martin Winterkorn n'est pas n'importe qui. Cet ingénieur est devenu en Allemagne un homme puissant en dirigeant les affaires du plus grand constructeur automobile européen pendant 8 ans. La justice allemande mentionne même le caractère illicite des bonus, plusieurs million d'euros qu'il a reçu. Cette accusation tombe à un bien mauvais moment pour la marque, en plein salon de l'automobile à Shanghai en Chine. Peut-être la semaine la plus importante de l'année pour Volkswagen.
L'Europe voudrait faire la paix commerciale avec les États-Unis. Malgré l'opposition de la France, les États de l'Union européenne ont approuvé l'ouverture de négociations avec Washington et la Commission européenne espère entamer ces discussions au plus vite. La présidentielle américaine est dans un an et demi, mais la course à l'investiture démocrate est déjà bien lancée pour savoir qui affrontera Donald Trump en 2020. 18 candidats sont en campagne et le plus jeune d'entre eux commence à faire sérieusement parler de lui. Il s'appelle Pete Buttigieg. À 37 ans, il est maire de la petite ville de South Bend, dans l'Indiana, 100 000 habitants. Et son profil est atypique. Vétéran de la guerre en Afghanistan, il parle 8 langues, il est marié à un homme, c'est le premier candidat à la Maison-Blanche ouvertement gay. Et surtout, cet inconnu fait forte impression à chaque débat, à chaque passage télévisé, à chaque meeting, et il ne cesse de grimper dans les sondages. Grégory Phillips l'a suivi à South Bend.
Le Sunrise Café ressemble à ces diners des années 50 avec les banquettes en moleskine, vestige d'une époque où les usines automobiles Studebaker faisaient vivre la petite ville de South Bend, Indiana. Aujourd'hui, la patronne Janice raconte qu'Obama est venu déjeuner ici un jour de 2008 pendant sa première campagne et que le maire, Pete Buttigieg, désormais lui aussi candidat à la Maison Blanche, est un habitué. Au comptoir, ce client, Ralph, plutôt républicain, mais admiratif du début de campagne de Buttigieg.
Parce que c'est le plus sensé parmi les très nombreux candidats à cette investiture démocrate. Il prône une politique au centre. Et puis c'est un bon garçon américain, il a été dans l'armée. Il est ouvertement gay, mais sans le revendiquer à chaque fois, il est parfait, parfait pour les démocrates, parfait pour l'Amérique.
Sous la pluie et dans le froid de cette mi-avril en Indiana, ils sont déjà des centaines réunis devant l'ancienne usine automobile, reconvertie en lieu d'accueil pour des entreprises du secteur des nouvelles technologies. C'est là que Pete Buttigieg tient son premier vrai meeting de campagne. Pour faire patienter ses supporters, on s'amuse à répéter et à clamer ce nom de famille d'origine maltaise, réputé imprononçable, mais que l'Amérique commence à connaître. Buttigieg. Puis le jeune maire de South Bend monte sur scène.
On m'appelle Mayor Pete et je suis candidat à la présidence des États-Unis.
La candidature de Pete Buttigieg, c'est aussi l'histoire d'un jeune homme au parcours sans faute et au profil atypique, parlant 8 langues, vétéran de la guerre en Afghanistan, marié depuis l'an dernier à son compagnon de 29 ans, Chasten. Il l'invite d'ailleurs sur scène et durant son discours évacue facilement cette question de l'homosexualité.
Au fait, quand j'étais en Afghanistan, les soldats autour de moi, les hommes comme les femmes, ce qu'ils voulaient savoir, c'était si mon fusil automatique était bien chargé, et c'est tout. Ils se fichaient de savoir si à la maison j'avais un ou une petite amie.
Le professeur David King a eu Pete Buttigieg comme étudiant à Harvard.
He's just a deeply grounded, emotionally stable, very bright young man.
C'est quelqu'un qui a les pieds sur terre, très stable, extrêmement brillant. Il était déjà comme ça à Harvard. Et aujourd'hui, le fait qu'il vienne du Midwest, qu'il ait cette expérience de maire, le fait qu'il ne soit pas perçu comme quelqu'un d'empêtré à Washington, ça lui donne un avantage stratégique et la possibilité d'aller très loin dans cette campagne. Je considère qu'il est l'antidote à Trump.
À la sortie de ce premier meeting, le candidat démocrate accepte de dire quelques mots en français.
Le message, c'est qu'il faut concentrer au futur et que notre génération doit adresser ces problèmes. On ne peut pas adresser comme si ce sont des problèmes des autres.
Pete Buttigieg a déjà collecté plus de 7 millions de dollars sur son seul nom. Et dans l'état test de l'Iowa, il occupe désormais la troisième place dans les sondages, derrière Sanders et Biden, qui ne s'est pas encore déclaré. Le petit maire de South Bend, Indiana, est en train de réussir son entrée en campagne.
Grégory Phillips, correspondant de France Culture aux États-Unis. Nous ne reprendrons pas le cours normal de nos vies. Cette promesse, Emmanuel Macron l'a faite le 10 décembre dernier en réponse au mouvement des Gilets jaunes. Depuis, il y a eu de nouvelles mobilisations. C'était samedi le 22e acte avec 31 000 manifestants. Il y a eu aussi plus de 2 mois de grands débats et c'est en s'inspirant des contributions des Français que le chef de l'État doit ce soir à 20h annoncer des chantiers prioritaires et des mesures concrètes. Ce moment va-t-il marquer un tournant du quinquennat ? Emmanuel Macron saura-t-il rétablir la confiance ? En tout cas, les Gilets jaunes restés mobilisés n'attendent rien de cette nouvelle allocution. Eux qui réclament depuis des mois la démission d'Emmanuel Macron sont sûrs que ces annonces quelles qu'elles soient, ne résoudront pas la crise et il prévoit de manifester samedi prochain. Les Français qui se sont exprimés dans le grand débat ont placé la santé et l'accès aux soins au cœur de leurs préoccupations. Or, depuis hier, plusieurs services d'urgence de l'assistance publique hôpitaux de Paris sont en grève illimitée. Les grévistes se plaignent à la fois de leurs conditions de travail et des agressions qu'ils subissent. Tarache Legal a joint le délégué CGT, Christophe Prudhomme, médecin urgentiste à l'hôpital Avicenne à Bobigny.
Depuis 20 ans, nous réclamons toujours la même chose, des locaux adaptés, des personnels en suffisance, de la sécurité. Et puis, se greffe là-dessus la question des salaires, parce que en région parisienne, le niveau des salaires des aides-soignants et des infirmières est ridiculement bas par rapport au coût de la vie. Donc, il y a un ensemble de revendications dans une période où c'est très difficile dans l'ensemble de l'hôpital. On a des plans de restructuration, des plans d'économie. Donc là, il y a un mouvement de colère. On sentait bien que la cocotte était en train de bouillir et là, ça explose.
Le directeur général de la PHP a fait des propositions. Il vous proposait 45 créations de postes ou emplois supplémentaires. Ça vous convient pas du tout ?
Non, vous savez, 45 emplois pour 17 services, c'est très insuffisant. Nous réclamons aujourd'hui l'application d'un référentiel qui a été élaboré par des médecins, référentiel qui permet d'avoir le personnel suffisant en fonction du nombre de passages pour assurer la sécurité des patients. Le retard pris à l'assistance publique est tel qu'aujourd'hui, ce chiffrage, qui n'est pas un chiffrage syndical, c'est un chiffrage de médecins, il manque aujourd'hui à l'assistance publique 700 emplois. Voilà. Donc, il va bien falloir débloquer les moyens parce qu'on a pris un tel retard qu'aujourd'hui, les patients et les personnels sont en danger et il y a des morts. C'est pas des paroles en l'air. La situation est grave. La situation est grave aujourd'hui. Les personnels essayent de faire au mieux, mais ils sont épuisés. Vous savez, on a un nombre de cas de burn-out, voire même de suicide très important, parce que quand vous êtes là, dans ces conditions, et que vous rentrez le soir chez vous et que vous avez l'impression d'avoir mal travaillé, ce n'est pas très bon pour le moral.
Le mouvement est porté par les syndicats CGT et Sud. Jean-Jacques Urvoas est renvoyé devant la Cour de justice de la République. L'ancien ministre de la Justice va être jugé pour violation du secret professionnel. En mai 2017, il avait transmis au député Thierry Soler, visé par une enquête, un document rendant compte d'une enquête préliminaire le concernant. Alain Soral, condamné à un an de prison ferme pour négationnisme. L'essayiste d'extrême droite a vu pour la première fois sa peine assortie d'un mandat d'arrêt délivré à l'audience, mais il n'était pas présent sur place. Bonsoir Antoine Marette.
Bonsoir.
Alain Soral a été reconnu coupable de contestation de l'existence de la Shoah pour avoir publié sur son site internet des conclusions litigieuses de son avocat dans une autre affaire.
Effectivement, tout commence en 2016. Le site d'Alain Soral, Égalité Réconciliation, publie une caricature parodiant une une de Charlie Hebdo. On y voit un dessin représentant Charlie Chaplin avec une bulle Shoah ou T avec les réponses ici et là en désignant un savon, des cheveux, une chaussure et un abat-jour. Pour cette publication jugée négationniste, Alain Soral est condamné à 10 000 euros d'amende. En 2017, Égalité Réconciliation publie les conclusions de son avocat. Maître Damien Viguier reprend les théories de Robert Faurisson niant l'existence de camps d'extermination nazis. Il explique notamment que les savons faits à partir de graisse humaine et les abat-jours en peau humaine ne sont que de la propagande de guerre. Ce sont ces écrits qui sont condamnés aujourd'hui. L'avocat écope de 5000 euros d'amende. Et Alain Soral, en tant que responsable du site, est reconnu coupable de contestation de l'existence de la Shoah. Un an de prison ferme assorti d'un mandat de dépôt, ce qui signifie qu'il devrait dormir en prison ce soir, même si les deux hommes font appel.
Mais donc, ça n'est pas la première fois qu'Alain Soral est condamné pour antisémitisme ou révisionnisme.
Non, c'est même un récidiviste au parcours chaotique. Alain Soral s'intéresse dans un premier temps, dans les années 80, à la mode. Il se situe alors à gauche et affirme même avoir été membre du Parti communiste. Il devient chroniqueur à la télévision, fréquente assidûment le milieu de la nuit. Il s'essaie sans trop de succès au cinéma et à l'écriture. Et il finit par attirer l'attention en 2002 avec un ouvrage dans lequel il pourfend les communautaristes homosexuels et juifs ainsi que le féminisme. Progressivement, l'attention de cet homme éloquent se focalise sur les juifs. Dans ses vidéos diffusées sur le net, il se laisse aller aux théories conspirationnistes les plus délirantes et il assume désormais le qualificatif d'antisémite.
Merci Antoine Marette. L'antisémitisme, le racisme ou l'homophobie, c'est ce dont va se saisir la brigade anti-discrimination lancée aujourd'hui par le gouvernement. Une page Facebook a été créée pour collecter des témoignages de victimes, victimes de discrimination à l'embauche ou lors d'une recherche d'appartement, dans la rue, au travail, etc. Mais cette brigade anti-discrimination, Lucas Caltritti, ne comprend ni policiers, ni gendarmes.
Non, c'est une équipe interministérielle interministérielle d'une douzaine de personnes qui va traiter les messages de victimes. Ensuite, elle pourra les guider vers des associations ou vers la police, comme l'explique Marlène Schiappa, la secrétaire d'État chargée de l'égalité hommes-femmes.
Au besoin, on fait évidemment appel aux policiers et aux gendarmes puisqu'il y a une carte de géolocalisation des commissariats de police. La discrimination, c'est un délit, donc on doit pouvoir justement accompagner les personnes jusqu'à la plainte pour qu'il y ait des enquêtes ouvertes et que les personnes qui discriminent soient sanctionnées.
Mais tout cela n'est qu'une perte de temps pour Samuel Thomas, le président de l'association Maison des Potes.
C'est une brigade qui fonctionne sur Facebook, qui va transférer les signalements à des associations qui elles-mêmes vont les transférer peut-être à des procureurs, qui eux-mêmes vont peut-être confier l'enquête à des policiers. On aurait gagné beaucoup d'intermédiaires et beaucoup de temps si c'était une brigade qui fait traiter les signalements par des officiers de police judiciaire qui procèdent immédiatement à des enquêtes de flagrance.
Samuel Thomas propose donc d'aller un peu plus loin.
Il faut des policiers spécialisés qui ne font que ça, qui ont les réflexes, qui savent... Par exemple, que dans une agence immobilière, il y a un bloc-notes dans lequel on écrit les commentaires sur les ordres discriminatoires des clients. Que souvent, ces commentaires sont codifiés avec PE, pas d'étranger, ou le code 3, etc. Il faut des gens qui soient rodés à ce type d'enquête pour que quand ils ont un signalement, ils savent comment procéder pour chercher les preuves.
Pour autant, tous les associatifs ne sont pas aussi négatifs. Certains expliquent qu'il peut parfois être traumatisant pour une victime d'aller directement au commissariat. Cette page Facebook pourrait être un trait d'union entre la personne discriminée et la police.
Les plaintes auprès de la CNIL sont en forte hausse. La Commission nationale informatique et liberté qualifie l'année 2018 d'exceptionnelle et de record. 11 077 plaintes ont été déposées l'an dernier, 30% de plus qu'en 2017. Une grande partie de ces plaintes concerne la diffusion de données sur Internet. Le RGPD, le Règlement général sur la protection des données, en vigueur depuis mai dernier, y est pour beaucoup, estime Marie-Laure Denis, la présidente de la CNIL. Elle nous explique pourquoi.
D'abord une exposition de plus en plus forte sur le numérique et parallèlement la mise en œuvre d'un nouveau cadre juridique qui a été fortement médiatisé, le règlement général sur les données personnelles qui rappelle aux utilisateurs d'Internet notamment qu'ils ont des droits sur leurs données, des droits d'être informés de l'usage qui est fait de leurs données, un droit de rectification, un droit d'opposition dont le droit à l'oubli ou de déréférencement. Les personnes concernées s'adressent d'abord aux plateformes et quand elles n'obtiennent pas satisfaction, elles s'adressent à la CNIL et la CNIL fait une balance entre la protection de la vie privée et en même temps la liberté d'expression ou le droit d'accès à l'information. Et la plupart du temps, les plateformes suivent les positions de la CNIL.
On a une hausse des plaintes. Est-ce qu'on a une hausse des sanctions ou c'est stable par rapport aux autres années ?
Disons qu'on a mis le focus plus sur l'accompagnement que sur les sanctions, mais cette période de relative tolérance, un an après la mise en œuvre du règlement et 3 ans après son adoption, en réalité, prend fin parce que c'est important, si la régulation de la CNIL veut être crédible, de faire respecter pleinement les obligations qui pèsent sur les entreprises et sur les organismes, voilà, publics y compris. Voilà.
La présidente de la CNIL, Marie-Laure Denis, au micro de Fiona Mbogadam. La ministre des Sports, Roxana Maracineanu, veut changer la manière dont on apprend à nager. Entre 2015 et 2018, le nombre de noyades a plus que doublé et il a augmenté de 85% chez les moins de 6 ans. Bonsoir Théo Conscience.
Bonsoir.
Avec son plan Aisance Aquatique, l'ancienne nageuse devenue ministre veut faire évoluer la méthode d'apprentissage de la natation et ce, dès le plus jeune âge.
Oui, actuellement, les cours de natation commencent en classe de CP à raison de 1 par semaine pendant 3 mois. La ministre des Sports veut les faire débuter dès la maternelle, c'est-à-dire à 4 ans, et sur des périodes de temps beaucoup plus resserrées pour favoriser l'intégration des enseignements, 12 séances sur 15 jours par exemple. Mais au-delà de ces sessions intensives, c'est toute la méthode d'apprentissage de la natation que la ministre veut faire évoluer. Jusqu'à présent, la plupart des gens découvrent ce sport avec une bouée. Porté par un flotteur, on apprend à faire des mouvements et à se déplacer dans l'eau. Le problème, selon la ministre, c'est que beaucoup de personnes, dès qu'elles sont à l'arrêt, perdent leurs moyens et pensent qu'elles vont couler. Elles ne savent pas flotter, d'où une certaine peur de l'eau ou aquaphobie qui, toujours selon Roxana Maracineanu, est responsable de beaucoup de noyades. On panique et on s'étouffe. La méthode que propose la ministre des Sports, qui est une ancienne nageuse, vous l'avez rappelé, a été théorisée il y a plus de 50 ans par Raymond Cato. Elle consiste à enseigner aux enfants à flotter avant de leur apprendre à se déplacer. Fini les bouées et les frites, on leur montre comment faire la planche et comment bien reprendre leur respiration avant de mettre la tête sous l'eau, le tout sans flotteur.
Et le plan Aisance Aquatique prévoit d'associer les parents à cet apprentissage. Grâce à des vidéos tutoriels, ils pourront accompagner les premiers essais de leurs enfants dans l'eau, comme ils leur apprendraient à faire de la bicyclette, par exemple. Et ce qu'espère Roxana Maraciné à nous, c'est que cela aidera certains parents à dépasser leur propre blocage, alors qu'on estime qu'un Français sur six ne sait pas nager.
Alors le temps ne sera pas à la baignade demain, il y aura des nuages et de faibles perturbations. Une amélioration est prévue en fin de journée, sauf en Bourgogne-Franche-Comté et dans les Alpes. Les températures minimales varieront de 2 à 11 degrés. L'après-midi, 12 à 17, jusqu'à 20 en Occitanie. Ce journal a été préparé avec Chloé Leblond.